Dans n'importe quelle agence de voyage, vous trouverez une brochure qui, vantant Jérusalem, parlera de son histoire, son archéologie, sa position géographique, etc. Mais jamais vous ne lirez « Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa ». Et pourtant, c'est bien ainsi que le prophète Ézéchiel décrit la ville sainte personnifiée. Je continue à lire dans le chapitre 16 du livre d'Ézéchiel. Mais tu t'es confié en ta beauté et tu as profité de ta renommée pour te prostituer. Tu as prodigué tes débauches à tous les passants et tu t'es donné à eux. Tu as pris certains de tes vêtements, tu les as cousus ensemble pour orner tes hauts lieux et tu t'es prostitué dessus. Jamais rien de tel ne s'était produit. Jamais cela ne se reproduira. Tu as pris tes magnifiques bijoux faits de mon or et de mon argent que je t'avais donné, tu en as fait des statues d'hommes et tu t'es livré avec elles à la prostitution. Tu as pris tes vêtements brodés pour couvrir tes idoles et tu leur as offert mon huile et mon encens. Versets 15 à 18. C'est avec l'Éternel et sur le mont Sinaï que le peuple élu avait fait une alliance qui fut scellée par la loi de Moïse. Mais Israël est devenu arrogant et infidèle à l'Éternel, en particulier en adoptant les fausses divinités des nations environnantes. Moïse, puis tous les prophètes, comparent cette idolâtrie à une prostitution religieuse. Ces faux dieux étaient des statues fabriquées en bois, plaquées d'or ou d'argent, puis habillées. On les plaçait ensuite sur les collines et les Israélites venaient les adorer de multiples manières, ce qui pouvait inclure des partouzes avec des prostituées sacrées ou des sacrifices d'enfants. Je continue plus loin. Tu as même pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les as offerts en sacrifice à ces images pour qu'elles les dévorent comme s'il n'était pas suffisant de te livrer à la prostitution. Tu as égorgé mes fils et tu les as offerts à ces idoles. Versets 20 et 21. Ces horreurs faisaient partie du culte au dieu Moloch. Dans les cultes païens, la cruauté et la débauche vont de pair. Je continue plus loin. Alors, je suis intervenu contre toi. Je t'ai coupé les vivres et je t'ai livré au bon plaisir de tes ennemis. Les villes philistines, elles-mêmes indignées par ta conduite infâme. Verset 27. La confédération des Philistins, qui se composait de 5 villes, situées dans l'actuelle bande de Gaza, avait annexé une partie du territoire de Juda. Je continue plus loin. Tu as été comme une femme adultère qui accueille d'autres hommes à la place de son mari. Verset 32. Alors qu'il possédait pourtant le culte du vrai Dieu, Israël a préféré se tourner vers les idoles. Je continue. En effet, toutes les prostituées reçoivent des présents, mais toi, tu as fait des cadeaux à tous tes amants. Tu les as achetés pour qu'ils viennent de partout se livrer à la prostitution avec toi. Verset 33. Israël était prêt à tous les sacrifices pour conclure une alliance militaire avec des peuples païens. Et c'est par leur intermédiaire que l'idolâtrie pénétrait dans le pays. Je continue plus loin. Je vais rassembler tous tes amants auxquels tu t'es offerte, tous ceux que tu as aimés, auxquels je joindrai tous ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai de tous côtés contre toi. Je découvrirai ta nudité devant eux pour qu'ils la voient tout entière. Verset 37. Quand la gloire de l'Éternel a quitté le temple, il a rompu son mariage avec son peuple qui redevenait nu, pour ainsi dire, c'est-à-dire sans protection. Les Israélites adoptaient toutes les idoles qu'ils trouvaient, même celles de ses ennemis héréditaires, c'est-à-dire les peuples voisins. Je continue. Je te condamnerai au châtiment des femmes adultères et de celles qui ont commis un meurtre. Dans la colère et la fureur de l'amour bafoué, je te le ferai payer de ton sang. Verset 38. Jérusalem était doublement coupable de meurtre, ayant sacrifié des enfants et massacré des innocents. Selon la loi, ces crimes étaient punis de mort par l'épée et l'adultère par lapidation. La colère de Dieu est proportionnelle à la force de son amour trahi. Je continue en compressant. Tes amants brûleront tes maisons, et sous les yeux de beaucoup de femmes, ils exécuteront la sentence contre toi. Je mettrai ainsi un terme à tes prostitutions. Désormais, tu n'offriras plus de cadeaux à tes amants. J'assouvirai ma colère contre toi, et la fureur de mon amour bafoué se détournera de toi. Je garderai le silence et je ne m'irriterai plus. versets 41 et 42. Toutes les nations seront témoins de l'opprobre subi par les Israélites, mais l'exil aura du bon puisqu'elle les guérira de l'idolâtrie. Dieu n'oubliera pas son peuple car une fois sa justice satisfaite, le jugement cessera. Je continue plus loin. Tu es bien la fille de ta mère qui a pris en dégoût son mari et ses enfants, et tu es bien la sœur de tes sœurs qui ont rejeté leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hittite et votre père un Amoréen. Verset 45. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul définit le paganisme comme une ingratitude et un refus volontaire de rendre à l'Éternel la gloire qui lui revient. Pour cette raison, Israël est mis au même niveau que les peuples païens. Je continue plus loin en compressant. Voici quel était le crime de Sodome, ta sœur. Elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les malheureux. Quant à Samarie, elle n'a pas commis la moitié de tes péchés et tu as accumulé plus d'actions abominables qu'elle. En comparaison avec toi et tous les actes abominables que tu as commis, tes sœurs paraissent justes. Versets 49 à 51. La méchanceté de Sodome et de Gomorre était légendaire. On apprend ici que ce sont l'orgueil et l'injustice sociale qui furent à l'origine des autres vices de Sodome et de son châtiment. Je continue plus loin. Aussi, je les restaurerai. Je restaurerai Sodome et ses filles, et je restaurerai Samarie et ses filles, et toi, je te restaurerai au milieu d'elles pour que tu portes ta honte et que tu rougisses de tout ce que tu as fait. Cela les consolera. Ta sœur Sodome et ses filles seront rétablies dans leur état d'autrefois. Toi aussi, Jérusalem, et tes filles, vous serez rétablies dans votre état d'autrefois. Versets 53 à 55. Les trois villes mentionnées représentent un certain type de population. Sodome, c'est le monde païen. Samarie, qui fut la capitale du royaume israélite des 10 tribus du Nord, c'est Israël rebelle. Et Jérusalem représente le petit reste fidèle du peuple de Dieu. Le retour des Israélites de l'exil babylonien est une image du salut universel qui sera offert à tous les hommes. Lors de l'établissement de l'Église, juifs, samaritains et païens entrèrent ensemble dans l'alliance de la grâce à la même condition de foi en Jésus-Christ. Ce passage fait aussi référence au millénium. Il n'y entrera que des croyants et tous ceux qui sont d'origine païenne retrouveront leur identité originelle, mais les détails de ce rétablissement national ne nous sont pas donnés. Je continue plus loin. Maintenant, c'est ton tour d'être déshonoré par les filles de la Syrie et toutes celles qui l'entourent, par les filles des Philistins qui te méprisent tout autour de toi. Verset 57. La Syrie fut la première nation païenne du Nord à attaquer Israël. Le bâton du pouvoir passa ensuite aux Assyriens, puis aux Babyloniens, qui sont considérés ici comme les filles de la Syrie. Quant aux Philistins, ils essayaient toujours d'agrandir leur territoire aux dépens de Juda, quand ce dernier était envahi par une nation étrangère. Je continue plus loin. Car voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as toi-même agi. Tu as fait peu de cas du serment et tu as violé l'alliance. Cependant moi, je me souviendrai de l'alliance que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Versets 59 et 60. Pendant les 70 années d'exil, l'Éternel allait mettre de côté l'alliance avec son peuple. Mais par la suite, il en conclura une autre qui continuera l'œuvre de rédemption commencée par la loi de Moïse. La nouvelle alliance n'aura plus un caractère national, mais sera universelle et éternelle. Je continue. De ton côté, tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte quand tu accueilleras auprès de toi tes sœurs aînées et cadettes. Et je te les donnerai pour filles, sans que cela soit inscrit dans mon alliance avec toi. Verset 61. Cette prophétie est accomplie dans l'Église universelle qui a vu le jour à Jérusalem. Son noyau originel était formé de Juifs auxquels se sont rattachés les croyants des autres peuples. Et comme le salut vient des Juifs, on peut dire que la Nouvelle Jérusalem est la mère des villes et nations païennes converties à Jésus-Christ. Cette situation n'était pas prévue par la loi de Moïse qui fut donnée aux Israélites seuls. La Nouvelle Alliance repose sur le sacrifice de Jésus-Christ et non sur la loi. Je finis le chapitre 16. Et j'établirai mon alliance avec toi, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Alors tu te souviendras de ta conduite passée, et tu seras saisi de honte. Tu seras si confuse que tu n'oseras plus ouvrir la bouche lorsque je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Versets 62 et 63. Israël passera par une profonde humiliation. Il sera non seulement sur le même pied d'égalité que les autres peuples, mais surtout, s'étant rendu davantage coupable qu'eux, il sera plus conscient de son indignité et de l'immensité de la miséricorde dont il sera l'objet. Nous arrivons au chapitre 17 qui raconte les récents événements ainsi que les projets de révolte de Sédécias, dernier roi de Juda. Nous arrivons au chapitre 17 qui raconte les récents événements ainsi que les projets de révolte de Sédécias, dernier roi de Juda, contre Babylone. Je commence à le lire. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, « Fils d'homme, propose une énigme, raconte une parabole à la communauté d'Israël, dis-leur. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Le grand aigle survint. Ses ailes étaient grandes, son envergure était très large. Il était couvert d'un plumage épais multicolore. L'aigle se rendit au Liban et saisit la cime d'un cèdre, puis arracha son rameau le plus élevé. Il l'emporta dans un pays de commerçants et il le déposa dans une ville de marchands. » Versets 1 à 4. Plus loin nous est donnée l'interprétation, que je lis. Alors l'Éternel continua à m'adresser la parole et me dit, « Demande, je te prie, à cette communauté rebelle si elle comprend ce que tout cela signifie. Dis-lui, le roi de Babylone est venu à Jérusalem. Il a capturé son roi et les chefs de la ville et les a emmenés chez lui à Babylone. » Versets 12 et 13. L'aigle, c'est Nabuchodonosor. Les grandes ailes représentent la rapidité de ses conquêtes et la large envergure, l'immensité de son empire. Le plumage varié représente les nombreux peuples qui le composent. Le cèdre symbolise la dynastie royale issue de David et sa cime est le roi Jéhoiakim. Il fut déporté par Nabuchodonosor en 597 avant Jésus-Christ à Babylone, appelée ici ville de marchands car à cette époque c'était le grand centre de commerce international. Je continue. Puis, il prit un plan du pays et le planta dans une pépinière. Il le mit comme un saule près des eaux abondantes. Le plan poussa et il devint un cep étendant ses sarments. Mais il était de taille bien modeste. Ses sarments se tournaient vers l'aigle et ses racines restaient sous lui. Il se développa, produisit des rameaux et poussa des sarments. Versets 5 et 6. Explication plus loin. Puis Nabuchodonosor a pris un rejeton de la race royale, il a conclu une alliance avec lui en lui faisant prêter serment. Il a emmené les notables du pays pour que le royaume demeure dans l'abaissement, incapable de se relever et qu'il reste fidèle à son alliance pour subsister. Versets 13 et 14. Au lieu d'imposer à Juda un gouverneur babylonien, Nabuchodonosor a choisi Sédécias, l'oncle du roi Jéhoiakim, qu'il avait déporté. Bien qu'il devint vassal de Babylone, Sédécias pouvait administrer Juda à sa guise. Je continue en compressant. Puis survint un autre grand aigle aux larges ailes, au plumage abondant, et voici que la vigne du champ où elle était plantée étendit vers lui ses racines et tendit ses sarments de son côté pour se faire arroser par lui. Mais elle avait été plantée dans un bon champ, près des eaux abondantes, où elle poussait des rameaux et produisait du fruit, et où elle était devenue une superbe vigne. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Cette vigne va-t-elle prospérer? Le premier aigle ne va-t-il pas arracher ses racines et la dépouiller de ses fruits pour les laisser sécher? Il ne faudra ni grand effort, ni une armée nombreuse pour la déraciner complètement. Dès que le vent d'Orient se mettra à souffler sur elle, ne desséchera-t-elle pas entièrement? Oui, sur le terrain même où elle avait poussé, elle desséchera. Versets 7 à 10. Explication. Mais celui-ci, c'est-à-dire Sédécias, s'est révolté contre le roi de Babylone. Il a envoyé des messagers en Égypte pour se procurer des chevaux et un grand nombre de soldats. Réussira-t-il? Celui qui agit de la sorte s'en sortira-t-il? Il a rompu l'alliance et il s'en tirerait. Verset 15. Nabuchodonosor a respecté le traité avec Sédécias. Juda n'était ni opprimé ni dans la misère, puisque sa situation est comparée à une superbe vigne. Mais, piqué dans son amour-propre, Sédécias décida de s'allier au pharaon Ophra qui régnait sur l'Égypte. Mais il sera facile aux armées de Babylone, dont l'emblème est le vent d'Orient, d'en finir une fois pour toutes avec la rébellion de Juda. Cette prophétie d'Ézéchiel fut donnée 3 à 4 ans avant que Sédécias ne se révolte. Je continue le texte en compressant. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, il mourra dans la ville du roi qu'il a appelé à régner, car il a violé son serment et il a rompu l'alliance conclue avec lui. Il mourra au milieu de Babylone. Il n'a pas respecté le serment. Il a violé l'alliance. Et pourtant, il avait bien donné son accord. Après avoir agi ainsi, il n'en réchappera pas. C'est pourquoi, parce qu'il a méprisé le serment prêté en mon nom et qu'il a violé mon alliance, je le lui ferai payer. Versets 16, 18 et 19. Selon les pratiques de l'époque, Sédécias, en tant que roi d'un peuple vaincu, avait juré au nom de son Dieu obéissance et fidélité à Nabuchodonosor vainqueur. Un traité de suzeraineté régissait leur rapport. S'il rompait le traité, le vassal s'exposait aux malédictions et aux châtiments prévus par le dit traité. En rejetant le serment au nom de l'Éternel, Sédécias a trahi Dieu. Alors qu'il tentait de s'échapper de Jérusalem encerclé, il fut saisi, on lui creva les yeux, puis il fut emmené à Babylone où il mourut. Je continue plus loin en compressant. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je prendrai moi-même un rameau tendre de la cime du cèdre élevé et je le mettrai en terre. Je couperai un tendre rejeton du haut de ses branches et je le planterai moi-même sur une très haute montagne, et il deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux habiteront dans sa ramure, et viendront nicher à l'ombre de ses branches. Versets 22 à 23. Dieu lui-même va choisir un membre de la dynastie de David et l'établir sur son peuple. Il s'agit du Messie qui régnera sur le monde entier. Alors tous les peuples viendront s'abriter sous sa puissance. Je finis le chapitre 17. Alors tous les arbres de la campagne reconnaîtront que moi, je suis l'Éternel, qui abaisse l'arbre élevé et qui élève celui qui était abaissé, qui fait sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, je le déclare et je le ferai. Verset 24. Toutes les autorités de ce monde reconnaîtront dans le Messie le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'arbre élevé abaissé est la dynastie de David, qui en la personne de Sédécias allait descendre plus bas que terre. L'arbre abaissé est cette même dynastie qui sera relevée en la personne du Messie. L'arbre desséché est Jéhoiakim qui n'aura pas de successeur sur le trône et Sédécias dont tous les fils furent égorgés par Nabuchodonosor. L'arbre sec qui verdit est le Messie qui mourut crucifié mais ressuscita et qui reviendra pour régner. Je commence maintenant à lire le chapitre 18. L'Éternel m'adressa la parole et me dit « Qu'avez-vous à répéter ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont abîmées. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. » Versets 1 à 3. Dans le second des 10 commandements de la loi, il est écrit « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Sur cette base, les Israélites avaient conçu un proverbe qui apparaît aussi dans les écrits de Jérémie, mais sous une forme légèrement modifiée. Les reproches et les menaces d'Ézéchiel, tels qu'ils apparaissent dans les discours précédents, provoquaient de la part des contemporains impénitents du prophète cette objection. Dieu n'est pas juste. Les pères sont coupables, ils ont péché, et puis ce sont les enfants, c'est-à-dire nous, qui en pâtissent. En réalité, Moïse avait rapporté les paroles de l'Éternel qui avait dit « Moi, je punis les fils pour la faute de leur père de ceux qui me haïssent, mais seulement si les enfants persistent dans la révolte de leur père. » Moïse confirme cette interprétation quand il écrit ailleurs « Les parents ne seront pas mis à mort pour les crimes commis par leurs enfants, ni les enfants pour ceux de leurs parents. Si quelqu'un doit être mis à mort, ce sera pour son propre péché. » Dans le chapitre 18, Ézéchiel va expliquer que d'une part, si le fils du père rebelle rompt avec la faute paternelle et revient à l'Éternel, il ne portera pas la punition du péché familial, et d'autre part, ce n'est que si les fils continuent dans la mauvaise voie des pères qu'ils porteront, en plus de leur propre peine, celle des générations précédentes accumulées sur leur tête. Je ne peux pas échapper au fait que je suis le fils de mon père, par contre je ne suis pas obligé de répéter ses fautes. Devant Dieu, chacun d'entre nous est responsable de lui-même.